Voix Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Ouagadougou, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique de l'Ouest. Burkina Faso, environ 3000 personnes, dont des jeunes de 10 pays africains, se sont retrouvées ce week-end dans le pays pour une journée d'hommage au président défunt Thomas Sankara, arrivé au pouvoir à Ouagadougou par un coup d'État et assassiné lors d'un putsch qui porta son compagnon d'armes Blaise Compaoré à la tête de l'État pour 27 ans. Après un symposium, la manifestation s'est poursuivie avec une marche dans Ouagadougou et un grand concert en place de la Révolution, avec de nombreuses vedettes africaines, dont l'ivoirien Tikenja Fakoli, la malienne Nawara Doumbia et le burkinabé Smokey. Les organisateurs ont profité du symposium pour lancer une fondation visant à réunir 5 milliards de francs CFA, à peu près 7,5 millions d'euros, pour la construction de mémorials sur les lieux de la mort de Thomas Sankara. Burkina Faso toujours, le procureur général près la Haute Cour de justice a affirmué lors d'un point de presse pendant le week-end qu'en l'état actuel des choses, l'ancien président Blaise Compaoré ne peut pas être jugé pour attentat à la Constitution et aux trahisons. Plus de détails sur ce dossier dans le reportage de notre correspondant à Ouagadougou, Zoumana Ronogo.
C'est publiquement face à la presse que le procureur général près la Haute Cour de justice, Armand Ouédraogo, a lancé ce pavé dans la mare.
Blaise Compaoré a été mis en accusation pour haute trahison et attentat à la Constitution. Mais si vous prenez la haute trahison, l'attentat à la Constitution, ce ne sont pas des infractions dans le droit positif. On a affirmé haute trahison, attentat, on doit juger le chef de l'État pour ça. Mais si vous ne dites pas d'abord en quoi consiste la haute trahison ou l'attentat, vous voulez que le juge puisse traiter le dossier comment?
Comment les Burkinabés ont reçu cette déclaration?
Ça me décourage. S'il ne peut pas juger, c'est peut-être question de temps. Si toutes les conditions sont réunies, il va être jugé. Ça, c'est clair. Il ne peut pas aller rester injugeable. Pas possible. Après tous les crimes, Blaise serait jugé. Ce qui est sûr, Blaise serait jugé. Toutes les formes seront réunies pour qu'il soit jugé, ça c'est clair.
Je ne suis pas vraiment satisfait de cette déclaration parce qu'on voulait que justice soit rendue à ceux qui se sont battus pour notre insurrection. Maintenant, quand ils disent que le président Blaise Compaoré ne peut pas être jugé, nous sommes vraiment très découragés.
Alors moi, en tant que citoyen, je suis vraiment très déçu de l'avis donné par le procureur. Mais je pense que la loi, elle est faite par les hommes. Il y a une possibilité pour vraiment arriver à mettre la main sur Blaise et le juger en toute transparence et en toute équité. Parce qu'il revient au Burkinabé d'avoir la vérité et de connaître réellement ce qui s'est passé.
Pour Idrissa Nogo, coordonnateur du mouvement « Plus rien ne sera comme avant », il faut plutôt pointer les doigts accusateurs sur le CNT, le Parlement de la Transition.
Les organes de la transition se sont vantés d'avoir voté massivement un certain nombre de lois. Ils ont même permis de comparer cette prouesse-là à la législature du temps de Blaise Compaoré qu'ils auraient donc dépassé en matière donc de vote de loi vu sous l'angle de la quantité. Ce n'est pas la quantité qu'il faut mettre en exergue, c'est plutôt la qualité des lois votées, l'effet qui devait être donc suivre pour la mise en exécution de ces lois-là. Ils se sont contentés de prendre des lois. Voilà qu'effectivement, un certain nombre donc de dispositions qui ne leur permettent pas forcément donc de mettre en accusation un certain nombre de personnalités.
Le procureur général, après la Haute Cour de justice, se donne un délai de 3 mois pour juger les ministres, dont Blaise Compaoré, mais cette fois-ci en tant que ministre de la Défense. Zoumana Ouédraogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
République démocratique du Congo, reprise pendant le week-end des travaux du dialogue national en plénière. La journée de samedi était surtout consacrée à l'exposé du président de la Commission électorale nationale indépendante concernant le calendrier électoral. Écoutons la proposition de Corneille Nanga.
Nous avons présenté le schéma critique en tenant compte des contraintes logistiques, financières et légales. On est arrivé avec l'appui de la communauté internationale à dégager des indications. Et cette indication se résume premièrement que non, nous clôturons l'opération de révision du fichier électoral le 31 juillet 2017 et nous allons convoquer l'électorat pour les 3 scrutins en novembre 2017.
Mais la proposition du président de la CENI a été rejetée par l'opposition. Vital Kamere représente l'opposition au dialogue national.
Au niveau de l'opposition, nous pouvons dire la première convergence avec la CENI, c'est que nous acceptons que, finalement, qu'on puisse convoquer l'électorat en 2017. Mais nous allons réajuster au niveau du mois, puisque nous parlons du 30 septembre 2017. La CENI parle de novembre 2017. Nous voulons une période la plus courte possible, mais techniquement réaliste et réalisable. Les autres discussions vont se poursuivre maintenant au niveau des négociations entre composantes.
Vital Kamere, représentant de l'opposition au dialogue national en RDC.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Le Gabon a un nouveau gouvernement quelques jours après la nomination d'Emmanuel Issoze Ngondé au poste de Premier ministre. Ce cabinet formé hier est composé de 40 membres, dont 11 femmes. Les détails avec notre correspondant à Libreville, Jean-Rovis Dabani.
Les piliers que sont le pétrole, la communication gardent leur poste, mais avec des pouvoirs élargis. Alain-Claude Billy Binsé, homme de confiance du Sérail, garde son poste mais devient ministre d'État. Les portefeuilles de la Défense nationale, des Affaires étrangères, de l'Intérieur, de la Justice changent de titulaire. Jusqu'ici, secrétaire général de la Présidence de la République, Étienne Massard devient ministre de la Défense nationale. Par contre, Moubele Boubeya quitte l'Intérieur pour les Affaires étrangères. À l'administration du territoire et l'intérieur, on retrouve Lambert Mata, une maison qu'il connaît bien. Il a été pendant près de 25 ans secrétaire général du ministère de l'Intérieur. L'avocat Francis Nkeya, allié du pouvoir, devient ministre d'État en charge des relations avec les institutions constitutionnelles. Il est aussi en charge du dialogue politique. C'est d'abord un gouvernement pour remercier les alliés. Paul Biyogemba, jusqu'ici ministre de la Santé, l'ancien journaliste et ancien président du Conseil national de la communication, Guy Bertrand Mapangu, sont récompensés pour leur soutien à la réélection du candidat Ali Bongo. Dans les rangs du Parti démocratique gabonais, le parti au pouvoir, l'ancien ministre délégué à l'intérieur, Guy Meksan Mamiaka, Françoise Asengon Obam, sont appelés en renfort pour aider à la mise en œuvre du programme politique du candidat Bongo. L'ancien candidat à la présidentielle d'août dernier, Bruno Ben Moubamba, hérite de la vice primature en charge du logement. Libreville, Jean-Rovis Dabani, VO Afrique.
L'Éthiopie a commencé ce lundi un deuil national de 3 jours après la mort de dizaines de personnes dans un mouvement de foule lors du traditionnel festival Oromo Iricha dimanche à Bishodfu au sud d'Addis Abeba, la capitale. L'opposition fait état d'au moins 100 morts. Rappelons que l'Éthiopie est actuellement en proie à un mouvement de contestation anti-gouvernementale sans précédent dans une décennie qui a commencé en région Oromo au mois de novembre 2015 et qui s'est étendu ensuite à la région Amhara, dans le nord. Plus de détails sur la tragédie de Bishoftu avec Timothée Donangmaï.
Le premier ministre éthiopien Haïlé Mariam Desalegn a fait état de 52 morts et de plusieurs blessés lors de ces incidents qui ont eu lieu à Bishoftu, localité située à une quarantaine de kilomètres au sud d'Addis Abeba. Il a imputé la responsabilité de la tragédie à des forces perturbatrices et démenti les informations selon lesquelles la police aurait tiré sur les manifestants. L'opposition, elle, affirme qu'il y a eu au moins 100 morts. Des dizaines de milliers de personnes s'étaient rassemblées sur les bords du lac Arsadi, sacré pour les Oromo, pour assister à la cérémonie de l'Iricha qui marque la fin de la saison des pluies. Certaines personnes au sein de la foule criaient « Nous voulons la liberté, nous voulons la justice » et agitaient le drapeau d'un groupe rebelle. Tout a dégénéré quand des responsables gouvernementaux locaux ont voulu prendre la parole, suscitant une réaction hostile de la foule.
Présidentielle américaine 2016, maintenant les équipes de campagne du candidat républicain Donald Trump et de la démocrate Hillary Clinton croisent le fer au sujet d'une nouvelle controverse. Des extraits de ce qui serait l'affiche d'impôt 1995 de Donald Trump, publiée par le New York Times, envoyée anonymement à ce quotidien, ces documents montrent que l'homme d'affaires Donald Trump aurait déclaré des pertes de 916 millions de dollars en 1995, un montant qu'il aurait pu alors déduire de ses impôts fédéraux sur près de décennies et ainsi ne pas payer d'impôts fédéraux pendant toutes ces années. Mais est-ce que Donald Trump a agi de la sorte? Le journal ne le dit pas spécifiquement. Timothée Donangmaï.
Le New York Times explique que les documents fiscaux de Trump exposent les bénéfices fiscaux extraordinaires qu'il a tirés dans les années 1990 à travers la mauvaise gestion de 3 casinos d'Atlantic City, son aventure malheureuse dans le transport aérien et son acquisition inopportune du Plaza Hotel de Manhattan. Pour Hillary Clinton et les démocrates, c'est une aubaine. Eux qui réclament depuis des semaines la publication des fiches d'impôts de Donald Trump n'en demandaient pas mieux. On se rappelle qu'au premier débat, la candidate démocrate avait laissé entendre que son adversaire républicain ne veut pas publier sa feuille d'impôt de peur que les Américains constatent qu'il prend avantage de la loi pour ne pas payer d'impôts fédéraux. Donald Trump a réagi sur Twitter dimanche, assurant « Je connais nos complexes lois fiscales mieux que quiconque s'étant porté candidat à la présidence et moi seul peux les régler ». Avec le premier débat entre l'écolistier, le démocrate Tim Kaine et le républicain Mike Pence prévu mardi 4 octobre, et le deuxième face-à-face Donald Trump-Hillary Clinton le dimanche 9 octobre, la question des impôts